France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin, plaidoyer pour les bons sentiments. Pierre Thévagnan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, philosophe, essayiste, co-créateur et co-animateur du collectif « Les mots sont importants » avec Sylvie Tissot, avec laquelle vous avez co-signé, entre autres, dès 2002, le dictionnaire de la lepénisation des esprits, ce qui était fort précurseur. Votre travail nous intéresse à l'Union rationaliste parce que vous refusez les positions simplistes, ce qui est selon moi tout le travail des rationalistes, et vous vous attaquez à traquer les positions racistes, droitières, xénophobes, derrière des présupposés qu'en philosophe vous critiquez, de façon moderne vous dites, vous débunkez. Mais aujourd'hui, à l'heure des fake news et de la simplification outrancière, c'est le tout ou rien, ou avec nous ou contre nous, qui subsiste, et vous subissez de très nombreuses attaques infondées et de tous bords, celles d'être islamophile, pour le voile, pro-religieux, etc. Vous publiez aujourd'hui un ouvrage sur les anti-woke, produisant l'analyse de l'origine de ce concept et retournant le stigmate en le revendiquant. « Soyons woke » aux éditions Divergence. Je ne peux que rappeler que notre ami Alain Policard écrit lui aussi sur le wokisme et a pour thèse, une thèse que vous ne contredirez pas, qui est que le wokisme n'existe pas et qu'il s'agit de la fabrication d'un mythe. Alors peut-être retour sur ce mot « woke » et le wokisme.
Oui, alors mon rapport avec les analyses d'Alain Policard, par exemple, que je cite dans l'introduction, il est assez simple. Effectivement, je partage toutes ces analyses, mais je conclus de manière un petit peu malicieuse que si le wokisme, en effet, n'existe pas, il faut l'inventer. Alors c'est évidemment une provocation, mais une provocation tout à fait raisonnable et que j'étaye par des arguments. L'idée est la suivante, c'est que il n'existe bien évidemment pas d'international wokiste, comme le prétendent les anti-wokistes, que j'appelle moi les slipistes. Justement, ceux qui préconisent et qui valorisent le statu quo, le fait de rester endormi sur ses privilèges, oui. Puisque, on y vient, la définition originelle du terme « woke », qui vient de
«
awake », en argot noir américain, c'est une idée vieille comme le monde, qui est que la pensée, et plus particulièrement la pensée morale et politique, est ou exige un éveil. Alors, il y a eu d'abord des versions religieuses, hein, c'est vieux comme la religion, d'opposer les endormis aux éveillés, dans à peu près toutes les religions, tous les prédicateurs, et dans les déclinaisons progressistes de la religion autant que dans les déclinaisons réactionnaires, on oppose les endormis aux éveillés, et comme souvent, ce système de métaphore, il se sécularise, il se laïcise, et on peut voir un Descartes qui renvoie, avec son doute hyperbolique, tous les préjugés de l'enfance...
au sommeil.
Comment dire, qui les renvoie, qui les rejette. On voit un Spinoza qui entreprend une réforme radicale de l'entendement. On voit un Kant qui se vante d'être sorti, grâce à David Hume, de son sommeil dogmatique. Et on pourrait, comme ça, dans le domaine de la philosophie la plus sécularisée, comme dans le domaine ensuite de l'activisme politique, multiplier à l'infini les exemples. C'est vieux comme le monde, l'idée qu'il vaut mieux être éveillé que endormi.
Sleepist, c'est les endormis.
Voilà, en termes intellectuels, mais également en termes éthiques. Il vaut mieux être sensible à l'injustice, c'est-à-dire souffrir de voir l'autre souffrir, plutôt que, encore une fois, apathique, ataraxique et droit dans ses bottes ou tout simplement endormi. Donc, d'une certaine manière, le retournement de stigmate que je propose, c'est une manière de remettre les choses à l'endroit. Parce que, originellement et de manière vraiment plus que canonique, elle va de soi cette idée. C'est une métaphore qui, comme toute métaphore, peut être interrogée, peut être complétée par d'autres réseaux de métaphores. Mais mon retournement à moi, il vient après un premier retournement qui est une opération politique. Alors, qui n'est pas la première d'ailleurs dans l'histoire. J'en parle d'ailleurs dans le livre. Au moment de la philosophie des Lumières, opposant la lumière à l'obscurité et l'éveil de la raison face à justement
à l'obscurantisme,
oui. Voilà. Eh bien, il y a déjà un courant qui s'appelle les antiphilosophes, avec un certain Fréron et un certain Palissot notamment, qui sont ce qu'on a appelé aussi le courant des contre-lumières, et qui ricanent de cette prétention à être éveillé. Les gnostiques ont été massacrés pour la même raison. Qu'est-ce que c'est que cette prétention à être plus éveillé que les autres? Socrate, Spinoza, tous les philosophes qui ont eu à subir des persécutions sous différentes formes, un des griefs fondamentaux qui leur était opposé, c'était précisément cette outrecuidance, cette remise en cause de tout ce qui va de soi, ce questionnement destructeur pour... Alors, pourquoi ? Ben pour l'ordre social qui a besoin de stabilité, qui a besoin de ne pas être endormi, qui a besoin qu'on le laisse dormir tranquillement. Donc, une des fonctions de ce livre, un de mes buts dans ce livre, c'était aussi de rappeler cette histoire sur la longue durée et le fait que la disqualification du wokisme, elle est récente, ou en tout cas, même si elle a des précédents, ce ne sont pas des précédents glorieux, ce sont toujours des tribunaux d'inquisition sous une forme ou sous une autre, et ce sont à peu près les mêmes argumentaires qui sont déployés, et quand je dis « soyons woke », c'est tout simplement une manière de dire, de répondre à nouveau à cette réaction anti-wokiste qui déjà... Encore une fois, en valorisant l'endormissement et l'assoupissement de la raison plutôt que l'exigence intellectuelle et la vigilance éthique, me paraissait mettre les choses à l'envers.
Ça me fait penser à cette gravure de Goya qui est en tête des cahiers rationalistes, à l'Union rationaliste, le sommeil de la raison engendre des monstres et qui est notre signature à l'UR. Bon, Pierre Thévagnan. Plus précisément encore, vous visez dans ce livre la politique d'un adversaire puissant, Pierre-Édouard Sterrin, qui est l'anti-vous, Pierre Thévagnan, en tout point, financier, intellectuel, politique. Alors, pourriez-vous expliquer aux auditeurs de France Culture cette conspiration politique visant à promouvoir l'accession de l'extrême droite au pouvoir en y mettant et les moyens financiers et les moyens idéologique faisant du wokisme la pierre angulaire de son combat.
Oui, alors, je vais être rapide et donc forcément, je renvoie les auditeurs et les auditrices...
À votre livre.
À mon livre d'une part et aux enquêtes qui sont sorties. Donc, c'est le journal L'Humanité en juillet dernier qui a sorti le premier « l'affaire », entre guillemets. Mais depuis, et notamment ces dernières semaines, on parle beaucoup de Pierre-Édouard Sterrin. Et effectivement, c'est une véritable conspiration, je dis, et pas besoin d'être conspirationniste pour ça, puisque de l'aveu même de ce Pierre-Édouard Sterrin, c'est une action concertée avec des millions d'euros. Enfin, personne ne nie, à commencer par les intéressés, qu'il s'agit d'une conspiration, qu'il s'agit d'un projet politique avec des millions d'euros, donc encore une fois, qui sont débloqués pour créer des écoles, pour financer des poules d'avocats, pour faire du harcèlement judiciaire, pour créer des instituts de sondage sur les questions qu'ils veulent imposer dans le débat public, de manière à assurer la victoire idéologique et politique de la droite extrême, du Rassemblement national, allié au reste de la droite, mais en position de leader. Tout cela, ce n'est pas de l'analyse subjective, c'est le projet avoué de ce Pierre-Édouard Sterrin, qui est donc un milliardaire, un homme d'affaires, catholique intégriste.
Oui, c'est le projet Périclès. Hein,
qui, effectivement, alors Périclès, c'est un acronyme de patrie, enracinement, enfin à peu près tous les mots de la novlangue ou de la langue plus ancienne réactionnaire. Soit des termes un peu récents de la Startup Nation, soit la vieille langue maurassienne, tout simplement, qui se donne comme ennemis principaux le socialisme, comprendre par là, évidemment, et ça c'est de longue date que ce mot a pris ce sens à droite et à l'extrême droite, toute velléité de redistribution sociale, donc un libéralisme extrême sur le plan de la vie économique, le socialisme, l'immigration et l'islamisme, qui sont là aussi les noms de code des races inférieures et dangereuses qu'on ne peut plus appeler comme ça parce qu'il y a une législation antiraciste, mais c'est de fait les deux mots-clés du discours raciste et de la militance raciste actuellement. Et enfin, le wokisme, et derrière le mot wokisme, qui est d'ailleurs le champ ou le front de lutte qui a reçu... à ce jour, au moment où j'écrivais en tout cas le livre, les plus gros subsides de ce Pierre-Édouard Sterrin, derrière le mot wokisme, il y a en gros tout ce qui est progressiste. Voilà. Donc l'antiracisme, l'antisexisme, l'écologie, les luttes sociales en général et la défense des minorités.
Absolument. Vous choisissez, Pierre Thévagnan, de livrer dans votre ouvrage une analyse comme un voyage en réactionnaire et vous visez au fond grande posture. Ceux qui s'attaquent aux luttes émancipatrices, l'anti-wokisme du 18e, les anti-woke de gauche et la posture d'esthète. Est-ce que vous pourriez, très brièvement, mais je m'en excuse parce que c'est toute l'argumentation de votre livre, exposer rapidement ces quatre points.
Ces différents avatars de l'anti-wokisme. Alors, effectivement, alors les trois premiers, pour aller vite d'ailleurs, je pourrais les rassembler parce qu'ils ont en commun, donc ça correspond aux trois premiers chapitres du livre, ce sont un peu des incursions en terre anti-wokiste. Alors, avec des variations en termes de réaction, plus ou moins des terres plus ou moins réactionnaires.
Oui.
En gros, la première, c'est ce que j'appellerais l'anti-wokisme le plus mainstream à travers la figure de Renaud Dely, qui est un éditorialiste très médiatique, très médiatisé, qui prétend incarner le cercle de la raison et une position centriste, et qui s'en prend, donc qui a commis un livre, donc je dis dans le livre, j'ai fait le décompte, qui a chez des grands éditeurs, en 5 ans, plus d'une trentaine de pamphlets anti-wokistes qui expliquent que le grave problème de l'époque, c'est le wokisme. Donc Renaud Dely, c'est une des versions de ce discours anti-wokiste qui oppose le mauvais wokisme venu d'Amérique récemment à une bonne tradition de gauche qui serait française et qui serait celle des Lumières et qui aurait été oubliée et qui serait piétinée par l'esprit wokiste. Alors, dans ce premier chapitre, je prends justement le temps de montrer que ce qui est reproché par un Renaud Dely et par beaucoup d'autres, mais c'est l'exemple que j'ai pris, à ce qu'il appelle le wokisme, c'est exactement la même chose que ce que les Fréron et Palissot et les antiphilosophes reprochaient à Diderot ou à Rousseau au XVIIIe siècle. C'est-à-dire, c'est d'aller trop loin, c'est de tout critiquer.
D'être égalitariste.
Oui, d'être extrémiste, d'être sectaire, d'être aristocratique tout en se prétendant égalitaire parce qu'ils ont un jargon incompréhensible par le bon peuple, ce que on reproche également aux wokistes aujourd'hui, ou à ceux qu'on appelle les wokistes, et enfin de manquer d'humour, ce qui est aussi ce qu'on reproche aux dits wokistes aujourd'hui. Le second chapitre, c'est un voyage dans une terre un petit peu plus hostile encore, à travers la figure de Jean-François Bronstein,
philosophe
de profession, qui justement met en avant son statut de philosophe et de philosophe des sciences, en durcissant cette opposition, cette antinomie qui est une posture très fréquente dans le discours anti-wokiste, du rationalisme en lutte contre l'obscurantisme. Donc l'obscurantisme serait du côté des wokistes.
Ouais.
Et
de
la
ceux
raison,
qui sont éveillés.
Voilà, la raison et l'héritage des Lumières seraient du côté
des anti-wokistes.
Des anti-wokistes. Et alors, à l'occasion là de l'analyse plus détaillée d'une conférence et de ce qui est dit dans cette conférence par Jean-François Bronstein, je montre que, aussi bien par les positions qu'il adopte que par le mode d'argumentation, l'appel au bon sens, l'appel au on-dit, l'absence de toute enquête scientifique digne de ce nom, le recours fréquent à un « etc.
Oui, »
qui permet de ne pas finir et de ne pas construire de raisonnement. Avec donc là un défilé de fake news sur le fait qu'on imposerait aux enfants de 5 ans dans les écoles de changer de sexe, ou enfin, des choses de ce niveau-là. Et ce qui est frappant et qui est un peu au cœur de ce second chapitre, c'est que la conférence se tient à l'Institut Denis Diderot. Et donc j'en profite pour faire un flashback dans la philosophie des Lumières, beaucoup plus détaillé que dans le premier chapitre, en montrant que Diderot incarne à la perfection la figure du wokiste radical et dangereux tel que Bronstein le dépeint, c'est-à-dire celui qui a le toupet. Et c'est le cœur du propos de ce Jean-François Bronstein. Le grand tort, le grand péril wokiste serait de tout questionner, et notamment trois choses qu'il ne faudrait pas questionner, qui sont la différence homme-femme, la différence radicale entre la vie et la mort, et entre l'espèce humaine et l'animal. Et je fais remarquer que sur ces trois plans, d'abord qu'il est hallucinant de voir un philosophe diaboliser le questionnement.
Bien sûr, ce questionnement, quel questionnement,
l'usage de la raison
critique de la philo
pour questionner justement des dualismes
essentiels
admis dans les esprits, et que par ailleurs, s'il y a bien un philosophe qui a pratiqué de manière extrêmement radicale cet exercice, et précisément sur ces trois fronts, l'opposition de la vie et de la mort, de l'homme et de l'animal, en ajoutant aussi l'anticolonialisme assez radical, le plus radical de son temps en tout cas, dans le cas de Diderot, eh bien, on a en Denis Diderot, philosophe des Lumières,
le woke par
excellence,
qui donne
son nom à l'institut où a lieu la conférence, on a la figure la plus patibulaire, patibulaire de ce qui fait les cauchemars de M. Bronstein. Petit clin d'œil au rêve de D'Alembert, livre de Diderot que je cite beaucoup.
Rapidement, Pierre Thévagnan, les deux derniers points, c'est-à-dire les anti-woke de gauche, notamment une théoricienne.
Voilà. Alors, le troisième chapitre, c'est une troisième théoricienne qu'on pourrait un peu rapidement mettre dans le même sac que les deux autres, dans la mesure où elle aussi a la nostalgie des Lumières et voudrait que la gauche retourne puiser dans cet héritage-là et écrit un livre pour dire que la gauche n'est pas woke. Et là, je discute un peu plus longuement parce que le propos est un peu plus élaboré chez Susan Neyman. Je montre que tout ce qu'elle nous demande de réhabiliter dans la philosophie des Lumières, qui est en gros l'usage de la raison critique pour débunker la pseudo-naturalité des oppressions, hommes-femmes, la monarchie, le pouvoir de l'Église, le pouvoir du capitalisme, le colonialisme, le racisme. Elle nous dit il n'y a rien de mieux et de plus précieux que ce legs des Lumières, la raison critique qui nous montre que tout cela n'est pas naturel comme on le prétend. Mais je fais remarquer que ce credo-là, auquel je souscris totalement, aujourd'hui, qui le met le plus en évidence et se fait d'ailleurs attaquer pour ça, ce sont les D-Wokistes, parce que la différence des sexes, le système capitaliste, l'économie de marché, les formes de colonialisme, à l'aide de leurs raisons critiques, ils et elles le remettent en question, et que les anti-wokistes, au contraire, sont ceux qui se retrouvent plutôt dans la position des anti-philosophes et des contre-lumières.
Oui. Alors, nous n'avons pas le temps, et c'est dommage, mais je renvoie à votre livre de développer la dernière figure qui est la posture d'esthète que vous illustrez à travers la figure de Sylvain Tesson. Je renvoie donc les auditeurs de France Culture à votre ouvrage « Soyons woke », plaidoyer pour les bons sentiments, publié aux éditions Divergence. Je vous dis au mois prochain. Je remercie Charlotte Thoreau-Lassalle, Jean-Guilain Meige qui ont rendu possible cette émission. Merci beaucoup à Claire Poinsignon qui s'occupe sur France Culture du site. Je renvoie au numéro Le beau et le laid, les sens en question, dernier numéro de Raison présente, et au cahier rationaliste, le dernier cahier rationaliste. Vous pouvez le commander comme Raison présente sur le site de l'Union rationaliste. Je vous dis au mois prochain.
Préserver, soigner et stimuler son cerveau. Le cerveau humain est une merveille de complexité, mais aussi de fragilité. Il est cependant possible de le protéger. Sport, nourriture, sommeil, Le Figaro Santé vous dévoile des solutions nouvelles pour préserver l'un des organes le plus complexe du corps humain. Cerveau, le préserver, le soigner, le stimuler. Le Figaro Santé, actuellement disponible dans les points de vente habituels, en partenariat avec France Culture.